Guerre et paix, première partie, chapitre 4, scène 13. Deux jours après, Rostov, qui n'avait plus revu Dologov, ni chez ses parents, ni chez lui, reçut de lui ces quelques mots.
N'ayant plus l'intention de me présenter chez vous par des motifs qui te sont sans doute connus, et partant bientôt pour l'armée, je réunis ce soir mes amis pour leur dire adieu. Tu me trouveras à l'hôtel d'Angleterre.
En quittant le théâtre, où il était allé avec Denisov et les siens, Rostov s'y rendit vers 10 heures et on l'introduisit aussitôt dans le plus bel appartement que Dologov avait loué pour cette circonstance. Une vingtaine de personnes entouraient une table, à laquelle il était assis et qui était éclairée par 2 bougies. Une pile d'or et d'assignats s'étalait devant lui. Il taillait une banque. Nicolas ne l'avait pas rencontré depuis le refus de Sonia et y éprouvait un certain embarras à le revoir. Dès que Rostov entra, Dologov lui jeta un regard froid et tranchant, comme s'il eût été sûr d'avance qu'il allait venir.
« Il y a longtemps que je ne t'ai vu, merci d'être venu. Laissez-moi finir de tailler ma banque. Nous allons avoir Ilyushka avec son cœur. »«
Je suis pourtant allé chez toi ?»
lui dit Rostov, en rougissant légèrement.
« Choisis une carte si tu veux, »
ajouta Dologov sans lui répondre. Une singulière conversation, qu'ils avaient eue un certain jour ensemble, revint dans ce moment à la mémoire de Nicolas.
« Il n'y a qu'un imbécile pour se confier à la chance, »
lui avait dit son ami.
« Aurais-tu par hasard peur de jouer avec moi ?»
lui demanda en souriant Dologov, qui avait deviné sa pensée. Rostov comprit, à ce sourire, que Dologov se trouvait, comme au dîner du club, dans une de ces dispositions d'esprit où, éprouvant le besoin de sortir du train-train monotone de la vie, il se laissait volontiers entraîner à commettre une méchante action. Nicolas balbutia quelques mots et cherchait, sans y parvenir, une plaisanterie à lui répondre, lorsque l'autre, le regardant en face, articula lentement, nettement et de façon à être entendu de tous.
« Te rappelles-tu ce que nous disions un jour à propos du jeu ? Il n'y a qu'un imbécile pour se confier à la chance. Il faut jouer à coup sûr. Et pourtant, je veux l'essayer. »
Et, faisant craquer son jeu de cartes, il dit au même moment
« La banque, messieurs !»
Écartant l'argent qu'il avait devant lui, il se prépara à tailler. Rostov s'assit à ses côtés sans jouer.
« Ne joue pas, cela vaut mieux, »
lui dit Dologov. Et Nicolas, chose étrange, sentit la nécessité de prendre une carte, en plaçant dessus une somme insignifiante.
« Je n'ai pas d'argent, »
dit-il.
« Sur parole, »
lui répondit Dologov. Rostov perdit les 5 roubles qu'il venait de mettre. Il remit encore et perdit de nouveau. Dologov passa 10 fois.
« Messieurs, »
dit-il,
« veuillez placer l'argent sur les cartes. Sans cela, je ne me reconnaîtrai plus dans les comptes. »
Un des joueurs émit l'opinion qu'on pouvait avoir confiance en lui.
« Sans doute, mais j'ai peur de m'embrouiller. De grâce, mettez votre argent sur les cartes. Quant à toi, ne te gêne pas, »
ajouta-t-il en s'adressant à Rostov.
« Nous ferons nos comptes plus tard. »
Le jeu continua. Et le domestique ne cessait de verser du champagne à flots. Rostov avait déjà perdu 800 roubles. Il allait faire son reste sur une carte lorsque le verre de champagne qu'on lui offrait arrêta son mouvement et il ne fit que sa mise habituelle de 20 roubles.
« Mais laisse donc !»
lui dit Dologov, qui, cependant, n'avait pas l'air de l'observer.
« Tu te referas plus vite !» « C'est étrange, je fais gagner les autres et toi je te fais toujours perdre. C'est peut-être parce que tu me crains. »
Rostov obéit, ramassant par terre un set de cœurs dont le coin était écorné et dont plus tard il ne se souvint que trop. Il écrivit bien lisiblement dessus le chiffre 800, avala son verre de champagne et, tout en souriant à Dologov et en suivant avec anxiété le mouvement de ses doigts, il attendit l'apparition d'un 7. La perte ou le gain, que pouvait lui amener cette carte avait pour lui une grande importance, car le dimanche précédent, son père, en lui remettant 2000 roubles, lui avait confié qu'il se trouvait dans des embarras d'argent. Il avait prié de bien économiser cette somme jusqu'au mois de mai. Nicolas lui avait assuré qu'elle lui suffirait, et au-delà. Et il ne lui restait plus déjà que 1 200 roubles. Aussi, s'il venait à perdre sur ce 7 de cœur, non seulement il aurait 1 600 roubles à payer, mais il se verrait obligé de manquer à sa parole.
« Qu'il me donne au plus vite cette carte !»
se disait-il.
Et je prends ma casquette et je file à la maison souper avec Denisov, Natacha et Sonia, et je jure de ne plus toucher une carte de ma vie.
Tous les détails de sa vie de famille, ses plaisanteries avec Petia, ses conversations avec Sonia, ses duos avec Natacha, la partie de piquet avec son père ou sa mère, tous ses plaisirs intimes se représentèrent à lui avec la netteté et le charme d'un bonheur perdu et inappréciable. Il ne pouvait admettre qu'un hasard aveugle, en faisant tomber à droite ou à gauche ce 7 de cœur, pût le priver de ses joies reconquises et le précipiter dans un abîme de malheur indéfini et inconnu. Cela ne pouvait être, et il suivait avec une anxiété fiévreuse le mouvement des mains rouges, velues, à larges articulations, de Dologov, qui s'arrêtèrent et déposèrent le paquet de cartes pour prendre un verre et une pipe.
« Tu n'as donc pas peur de jouer avec moi ?»
lui dit Dologov en se renversant sur le dossier de sa chaise comme pour raconter à ses amis quelque chose de gai.
« Oui, messieurs, on m'a assuré qu'on avait fait courir à Moscou le bruit que je trichais au jeu. » S'il en est ainsi, je vous conseille d'être sur vos gardes.
Voyons, taille donc,
lui dit Rostov.
Oh, ces vieilles commères de Moscou,
ajouta-t-il en reprenant le talon. À ce moment, Rostov, réprimant avec peine une exclamation, se prit la tête à deux mains. Le 7 de cœur, qui lui était si nécessaire, était la première carte de la taille, et il avait perdu plus qu'il ne pouvait payer.
Écoute,
lui dit Dologov,
ne va pas t'enfoncer.
Et il continua à tailler.